Boileau.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et nous, comme des imbéciles, on dit il y en a rien qui saute, qui n'ont pas travaillé. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il ne faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pour pas travailler.
35 heures.
Mais de là à dire que ce qui est bien, c'est attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35
Mais
heures.
Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus et travailler moins.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con. Tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chômage, c'est tout. Il faut travailler plus, on ne travaille plus assez en France.
Les Français sont paresseux.
On continue avec l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours, avec Benoît Colombat. Et puis avec Benoît Colombat, il y a David de Servenay et Erwan Seznec. Alors, ce qui se passe aussi, ce que vous mettez bien en lumière, je trouve, c'est tout le couple État-patron. Hein, l'État et les patrons, et c'est ces gens-là qui se présentent toujours, bah justement, à travers les biographies complaisantes qui sont faites sur eux, comme des héros, des visionnaires, qui prennent des risques.
Ça fait partie de la légende, effectivement, ces grands conquistadors, ouais. Grands libéraux, effectivement. Quand on commence à regarder comment certains ont constitué leur fortune, on voit qu'effectivement, il y a quand même un léger décalage et qu'ils se sont beaucoup servis, justement, de l'État pour arriver à leur fin. Alors, en flirtant avec la ligne jaune, hein, donc on voit effectivement des gens comme Bernard Arnault, ou comment Bernard Tapie a pu faire une partie de sa fortune à la barre des tribunaux de commerce, que ça soit aussi Marcel Dassault, enfin la liste
Marcel
est longue.
Marcel Dassault, c'est bien quand il dit « je les ai tous payés
oui, ». Tous les politiques.
Tous payés, c'est les politiques. Il le disait carrément, ouvertement, c'était à chéquier ouvert, il y allait, et son fils continue.
Le cas de Marcel Dassault est intéressant à plus d'un titre parce qu'il est assez nuancé. Marcel Bloch, donc on le sait, a passé la guerre dans un camp de concentration, et en fait, il doit sa survie au Parti communiste, qui, dès son arrivée au camp, lui disent « On vous connaît, Monsieur Bloch, ne vous inquiétez de rien, on va vous protéger », ce qui est effectivement le cas. Et quand il rentre, après-guerre, quand il revient des camps, Marcel Dassault, donc, va avoir les meilleurs rapports avec le Parti communiste et va avoir une politique plutôt assez paternaliste, mais assez sociale, en fait, au sein de son entreprise.
Oui, mais il soutient aussi, on dit qu'il versait chaque année une somme au Parti communiste, c'est vrai, ça ?
Il a toujours laissé planer cette ambiguïté. Mais ça ne serait pas étonnant, parce que, toujours en raison de ce creuset qu'a été pour lui la guerre. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire des Dassault, c'est que donc, ce sont des gens qui ont toujours tenu un discours extrêmement libéral sur le mode « il faut laisser faire les marchés », etc. etc. Et en réalité, le groupe Dassault s'est en grande partie construit grâce à la commande publique. S'il n'y a pas l'État qui lui commande des avions, etc., le groupe Dassault n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut entretenir les meilleurs rapports avec le monde politique, et c'est pour ça que Marcel Dassault va faire la carrière d'un homme politique qu'on connaît tous et qui s'appelle Jacques Chirac.
Alors, ce retournement que vous évoquez là, entre 68-80, il s'opère. On voit arriver là ce qu'on appellera le néolibéralisme à ce moment-là, non ? Ou vous le placez plus tard, ça ?
C'est un peu à cheval sur les deux périodes, mais ce qui est très clair, c'est que dans les années 70, le patronat formule de manière explicite une vision stratégique pour les décennies à venir. Elle est assez simple, elle dit, voilà, il y a eu mai 68, le champ de bataille, en quelque sorte, s'est déplacé sur le terrain intellectuel, idéologique, culturel, médiatique, sur le champ de l'éducation notamment, et il faut qu'on investisse tout ces terrains-là de manière très offensive. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il y a des histoires très intéressantes de ce point de vue-là. Comment, par exemple, le patronat organise des colloques pour les enseignants, notamment les profs de sciences éco, pour leur faire passer, en quelque sorte, leurs idées. Alors, toujours dans les très bonnes conditions, Benoît en parle, il y a un colloque qui est organisé au Mont-Saint-Michel, dans de très bonnes conditions, très bons hôtels, très bons restaurants, etc. Et tout ça sert à...
Quelle époque, ça ?
Alors ça, c'est plus tard, hein. C'est dans les années 80-90, mais effectivement, ça vient de loin, ça a été théorisé avant et mis en application, y compris dans cette période-là. Et quand on a parlé plus tard de fluidification, hein, de l'espace public, ça passait aussi par ça. Mais je veux dire, ça n'était pas secret, mais c'est intéressant de le documenter. Moi, j'ai retrouvé notamment les archives de certains colloques, hein. Ils se cachaient pas, mais il y avait un message très clair qui devait être passé.
Alors c'est ça que vous dites en permanence, c'est que c'est clair, c'est public, il n'y a pas de complot derrière ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas plus ? Pourquoi est-ce qu'un bouquin vient seulement maintenant, je dirais?
Alors, il y a un élément qui joue et dont on vient de... qu'on peut relier
c'est à ce qu'on